Et bonjour à vous Clara Lecoq-Réal.
Bonjour Caroline.
C'est
bonjour
à vous pour les informations.
Effectivement, on commence. Donald Trump coupe les ponts avec l'Organisation mondiale de la santé. Le président américain accuse l'OMS de soutenir Pékin. Vous l'entendrez en début de journal. Trump qui a appelé la famille de George Floyd hier, l'assurant de son soutien. George Floyd, afro-américain, est mort lundi lors d'une interpellation violente de la police à Minneapolis. Depuis, des manifestations et des émeutes ont lieu un peu partout aux États-Unis. Les détails à suivre. Vous comprendrez ensuite comment changent les habitudes de consommation des Français pendant la crise sanitaire de ce nouveau coronavirus. Le commerce en ligne, évidemment, en profite. Et puis, nous nous intéresserons à l'Assemblée Générale de Total. Hier, les actionnaires ont refusé que le groupe prenne des engagements écologiques. Il l'accuse d'être trop indulgente avec Pékin, surtout en ces temps de crise sanitaire partie de la Chine. Donald Trump a annoncé hier soir que les États-Unis quittaient l'Organisation mondiale de la santé, Loïc Pialin.
La décision de Donald Trump n'est pas forcément une surprise. En avril, le président américain avait suspendu les versements des États-Unis à l'Organisation mondiale de la santé. Il y a quelques jours, il a prévenu que sans réforme, ce gel des paiements deviendrait permanent. Monsieur Trump a expliqué à la presse que l'OMS avait échoué à faire, je cite, les réformes nécessaires et requises. Critiqué pour sa gestion de la crise sanitaire, le pensionnaire de la Maison-Blanche blâme depuis des semaines l'OMS, qu'il estime à la solde de Pékin. Elle n'aurait pas agi assez vite et assez bien pour endiguer la pandémie, selon lui. Le dirigeant américain a aussi mis en cause la Chine. Le monde a besoin de réponses de la Chine sur le virus, nous devons avoir de la transparence, dit-il. C'est étonnant que le Covid-19 n'ait pas touché Pékin. Son administration, par sa voix ou celle de Mike Pompeo, son ministre des Affaires étrangères, a suggéré, sans preuve, que le virus avait été créé dans un laboratoire de Wuhan. Avec environ 450 millions de dollars par an, les fonds des États-Unis représentent 15% du budget de l'OMS.
15% qui pourrait être pris en charge à l'avenir par la Chine, justement. Et c'est pour s'en prendre un peu plus encore à Pékin que Donald Trump a également confirmé hier qu'il révoquait le statut spécial accordé à Hong Kong. La péninsule va en fait perdre une partie de son autonomie à cause d'une loi votée en Chine sur sa sécurité nationale. Washington dénonce depuis plusieurs jours maintenant ce texte, estimant qu'il s'agit d'une manière déguisée de museler l'opposition à Hong Kong et de rogner les libertés, ce que dément toujours formellement la Chine. Des manifestations ont éclaté dans plusieurs grandes villes américaines hier soir, devant la Maison-Blanche à Washington, mais également à New York, Dallas, Houston, Las Vegas, Memphis, Portland, Atlanta, où des véhicules de patrouille de la police ont été brûlés, avec toujours les yeux tournés vers Minneapolis. C'est dans cette ville du Minnesota qu'un Afro-Américain est mort lundi lors d'une violente interpellation de la police. 4 jours plus tard, et malgré l'inculpation du policier arrêté, les émeutes se poursuivent, les rassemblements contre les violences policières également. Cette nuit, un couvre-feu a été instauré à Minneapolis. La famille de la victime George Floyd, famille à laquelle le président Donald Trump a annoncé avoir parlé, elle salue l'arrestation du policier, mais elle la juge tardive et insuffisante. En France, l'épidémie du nouveau coronavirus ralentit encore avec un bilan quotidien hier de 52 morts. L'agence de santé publique France indique pour sa part que 109 foyers d'infection hors EHPAD ont été rapportés depuis le 11 mai dernier. Des foyers d'infection qui n'ont pas été à l'origine de dissémination de l'épidémie pour le moment. Voilà ce qu'indique Santé publique France. Les chiffres sont bons donc, mais attention toujours au relâchement, surtout en ce nouveau week-end prolongé par le lundi de Pentecôte. Il y aura des contrôles, prévient le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Et pour mieux lutter contre le virus, les dépistages se multiplient. Dépistages prioritaires pour les soignants, pour les proches de malades, toujours. Et puis pour les militaires, qu'ils partent ou qu'ils rentrent de mission, ils doivent désormais se soumettre à un dépistage. Exemple, en région parisienne, au Fort de l'Est, avec 120 soldats tout juste rentrés du Sahel, ils doivent rester confinés pendant 48 heures. Nathalie Hernandez les a rencontrés.
Sous un grand hangar, les militaires patientent en file indienne avant de s'enregistrer pour effectuer un test PCR, ce test nasal qui permet de détecter la présence du Covid-19. Ils arrivent du Tchad, du Mali ou du Niger.
On nous a convoqués ici à partir de 8h30.
Le colonel Jean-Charles.
Et par ordre alphabétique, vous voyez les gens les uns derrière les autres qui vont se faire tester. Et en fonction des résultats, s'il y a des gens qui sont dépistés et positifs, donc ils seront isolés. Et puis pour les autres, ils feront une 14aine à la maison.
Vous n'avez pas de symptômes ?
Non.
Maux de tête, maux de ventre, nez qui coule ?
Je vais être patienté juste là.
C'est la médecin-chef Amandine qui pilote le dépistage avec 7 infirmiers et auxiliaires sanitaires.
Un auxiliaire sanitaire les fait moucher, puis ils attendent pour être en vue d'être prélevés. Donc il y a 3 chaînes de prélèvement. Ensuite, le prélèvement va être emballé dans un triple emballage pour après être acheminé et analysé à l'hôpital des Armées Bégin.
Quelques minutes désagréables à passer pour l'adjudant Benoît et 24 heures d'attente pour connaître le résultat.
L'infirmière fait un premier prélèvement dans une narine et va au plus profond possible.
Et donc là, maintenant, vous attendez le résultat.
Le résultat avec impatience et on a hâte de rentrer chez nous.
Depuis le 7 mai, 1000 soldats en partance ou de retour d'opérations extérieures ont été dépistés. Peu de cas positifs ont été observés selon le ministère des Armées.
Nathalie Hernandez. Un plan d'urgence pour les collectivités locales, départements, communes, intercommunalités. Le gouvernement annonçait hier soir 4,5 milliards d'euros pour aider ces collectivités à faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques. Les départements notamment qui sont chargés de verser le RSA ou l'aide sociale à l'enfance. Leurs dépenses sont plus importantes en ce moment que leurs recettes. En bref, encore noter ce report. Le nouveau référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie aura finalement lieu le 4 octobre au lieu du 6 septembre. Ce sera un an et demi après la victoire du non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. L'accord de Nouméa prévoyait un deuxième scrutin. Autre conséquence de la crise du moment, les changements de consommation avec une baisse de la consommation des Français, baisse d'un tiers en avril. Après 2 mois de confinement et des déplacements qui sont encore compliqués, les Français vont-ils revenir en masse dans les magasins traditionnels ou bien vont-ils garder certaines habitudes prises ce printemps, comme acheter en ligne ? Ce qui est certain, c'est que la crise a accéléré la transformation du secteur. Cette semaine, une étude le prouve. Elle est menée par Médiamétrie et par la FEVAD, qui regroupe les sites de commerce en ligne français. Voici le décryptage de cette étude avec Anne Lorchouin.
Ces derniers mois auront d'abord marqué la revanche de l'ordinateur sur les mobiles, des mobiles à la fois moins achetés et qui ont moins servi à acheter en ligne. Autre enseignement, le renforcement très net de la présence en ligne des enseignes traditionnelles de commerce et des TPE et PME qui se sont organisées ces derniers mois pour continuer à vendre via Internet ce qu'elles ne pouvaient plus vendre dans leurs magasins. Une tendance plébiscitée par les consommateurs, selon Marc L'Olivier, délégué général de la FEVA, de la Fédération des enseignes de commerce en ligne.
Le e-commerce, il y a une transition qui se fait. On voit toutes les grandes enseignes de magasins aujourd'hui qui sont dans le top 15, hein, donc qui ont pris ce virage digital. Donc là, je pense qu'il va y avoir une accélération. Mais on avait quand même ces PME, TPE qui étaient un peu sur le bord du chemin, finalement, qui hésitaient un petit peu. Et évidemment, quand la librairie, le magasin de jouets était fermé, ils ont essayé de trouver des moyens de livrer leurs clients avec des commandes par téléphone sur Internet. Souvent, ils faisaient eux-mêmes la livraison. Et je crois que les Français ont beaucoup apprécié de pouvoir commander chez leur commerce de proximité. Et ça fait naître un besoin. Nous, dans l'enquête qu'on vient de publier là, avec Médiamétrie, elle montre que 75% des Français aujourd'hui estiment que tous les commerces de proximité devraient proposer un service de vente sur Internet.
À noter également l'explosion littéralement du drive sur Internet. Ce mode d'achat a attiré de nouveaux consommateurs dont une partie devrait rester fidèle. C'est sans doute le grand changement des habitudes de consommation. Désormais, les produits alimentaires et frais sont de plus en plus achetés sur Internet. Les distributeurs chinois ne s'y sont pas trompés. Ils investissent massivement dans ce secteur depuis la crise.
Et qui maintenant pour investir dans l'écologie avec cette crise ? Pas le groupe Total en tout cas, pas massivement. Hier, lors de l'Assemblée Générale de l'entreprise, les actionnaires ont rejeté une résolution qui visait à contraindre Total à des objectifs climatiques plus ambitieux. Elle n'aboutira pas. Petit espoir tout de même, le texte n'a pas été catégoriquement rejeté, Annabelle Grelier.
Cette résolution n'avait aucune chance d'être adoptée puisqu'il fallait réunir au moins 2/3 des actionnaires en sa faveur. Mais en obtenant 16,8% des votes, c'est déjà un désaveu venant d'une partie des investisseurs qui s'est exprimé. Parmi eux, la Banque Postale, le Crédit Mutuel, Ecofi, le Crédit Coopératif, Mescar et Sycomore, quand BNP Paribas, qui pourtant affiche lui aussi de grandes ambitions environnementales, s'est contenté de s'abstenir. Mais c'est déjà signe que les lignes commencent à bouger puisque la critique vient désormais de l'intérieur. Ces investisseurs investisseurs souhaitent en effet que le groupe aille plus loin dans la réduction de ses émissions de CO2 et surtout qu'il annonce une stratégie claire et lisible. Car jusque-là, Total est surtout très bon dans la communication, au point que la plupart des ONG l'accusent d'être passé maître dans l'art du greenwashing. Total a en effet récemment annoncé un nouvel objectif de neutralité carbone à horizon 2050, mais dans la réalité, les investissements à long terme qu'il fait dans le forage du pétrole et de gaz ne sont ni compatibles ni réalistes avec ses engagements pour une énergie plus verte, dénoncent les ONG, rappelant qu'en 2018, plus de 90% des investissements de Total allaient dans les hydrocarbures. Même si les signataires de la résolution veulent y voir un tournant historique, en la rejetant massivement, Total prend de toute évidence un risque face aux marchés financiers devenus très sensibles depuis la crise du Covid.
Quelques mots rapides de la météo qui nous attend ce samedi. Ensoleillé pour tout le monde avec des températures élevées, toujours 20 à 24 degrés ce matin, 23 à 29 cet après-midi.